Bon, on a deux sujets avec notre ami Ray ce matin.
Oui, on va parler d'abord, Ray, des nouveaux membres du Temple de la renommée du basketball. Et il y en a un très connu qui est décédé récemment, c'est Kobe Bryant.
Oui, bien, il y a eu samedi le vote final. L'intronisation aura lieu effectivement au mois d'août. C'était à Springfield, au Massachusetts. Puis j'encourage les gens qui n'ont jamais été visiter le Temple de la renommée du basketball. Évidemment, si les conditions le permettent, ça vaut la peine de se déplacer à Springfield. Bon, il y a d'abord 9 personnes qui ont été élues, mais je vais en parler de 4 rapidement. Rudy Tomjanovich, c'était l'entraîneur des Rockets de Houston dans les années 90. Les deux années où Michael Jordan a pris sa retraite des Bulls, ben ce sont les Rockets qui ont gagné en 94 et 95. Il y avait Hakeem Olajuwon comme joueur vedette, puis Rudy Tomjanovich était l'entraîneur. Alors, c'est un gars que je connais personnellement qui est un gentleman du sport, amplement mérité. Kevin Garnett, le deuxième, il a joué presque toute sa carrière avec les Timberwolves, suivi des Celtics à Boston. Puis il a gagné un titre avec les Celtics. C'était un des premiers joueurs repêchés directement du high school. Il allait dans une école qui s'appelait Fairboot à Chicago. Il était repêché, il n'a pas fait d'universitaire directement à 6 pieds 11 pouces dans la NBA. Puis ça a été un des grands joueurs de puissance dans la Ligue. Puis les deux derniers forme, à mon avis, le meilleur duo de l'histoire à rentrer au Temple en même temps. Tim Duncan, le plus grand joueur de l'histoire des Spurs, 5 fois champion NBA, 19 ans de carrière avec une seule équipe, 2 fois le joueur le plus utile de la Ligue, et Kobe Bryant, 20 ans avec les Lakers, 5 fois champion de la NBA lui aussi directement sorti d'une école secondaire à Philadelphie, un des plus grands qui est décédé malheureusement le 23 janvier dernier. Alors imaginez l'intronisation, ça va avoir un côté vraiment extraordinaire comme talent, mais aussi un peu triste de ne pas avoir Kobe Bryant sur place.
Bon, on va maintenant jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle le data dans le monde du sport, là, les stats.
Ouais, ça, c'est quelque chose qui est quand même phénoménal. Il y a une explosion, Paul, Alain, depuis 10 ans dans les équipes sportives. Si je vous ramène 25-30 ans en arrière, là, tu sais, les années où Scottie Bowman coachait les Canadiens, il n'y avait littéralement même pas un adjoint derrière le banc avec lui. Puis à un moment donné, il y a eu un entraîneur adjoint. Puis après ça, il y a eu comme un entraîneur de gardien. Puis après ça, il y a eu un entraîneur d'entraînement physique, ce qu'on appelle un coach de conditionnement. Aujourd'hui, là, il y a 6-7 entraîneurs dans chaque équipe de hockey, mais il y a aussi de plus en plus un responsable des données analytiques. C'est quoi les données analytiques puis le data? C'est un autre terme pour définir l'information pertinente, précise, virtuelle. On obtient ça, puis on les appelle les statistiques avancées, on obtient ça d'analyse vidéo puis de recueillement à partir de différentes mesures virtuellement à toutes les secondes pendant un match. Puis ça sert aux entraîneurs de hockey derrière un banc pendant que le match se déroule, mais ça sert aussi à dépister pour les prospects qui s'en viennent dans la Ligue, mais aussi ça a un côté commercial. Parce que ça sert à gérer puis comprendre les habitudes de consommation des gens. Le mouvement des gens dans les gradins. Où est-ce qu'ils vont puis ils dépensent combien d'argent puis c'est quoi leur produit préféré pour une soirée ou une autre? À quelle heure ils arrivent pour un match? Où ils se stationnent? Où ils entrent dans l'aréna. Tout ça de façon prévisible, parce que ça a un côté prescriptif, puis ça a un côté, si on veut, qui est pour augmenter puis améliorer les performances. Fait que les équipes s'en servent pour générer plus d'argent, pour même changer ou ajuster ou modifier le prix des billets, dépendant de la consommation puis de la demande. Fait que là, c'est pas quelque chose qui nous affecte maintenant, mais c'est un phénomène qui a transformé...
Non, mais avec... si Google est capable de savoir là, où sont les gens dans les parcs, dans les maisons et tout ça, là, c'est clair que les organisations sportives vont jouer avec l'intelligence artificielle pour...
Oui, exactement. Ça pénètre la vie privée des gens, puis c'est comme un peu incroyable, là, qu'ils savent tout ce qu'on fait en rentrant dans l'aréna. Ils mesurent nos dépenses discrétionnaires, puis ça sert à prédire qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Alors ça là, en anglais, on appelle ça « predictive analysis ». Puis ça sert un peu à envisager quelles vont être nos consommations pour un match ou un autre. Puis ça devient une question maintenant, Paul, Alain, de comment les équipes s'en servent pour interpréter. Parce qu'il y en a qui sont pas équipés, il y en a qui sont en retard, comme d'autres. Il y a des équipes comme les Raptors qui font partie de la vision un peu plus progressive, qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce secteur-là. Fait que finalement, pour conclure, ça aide les équipes à gagner plus de matchs. Ça aide les équipes à générer plus d'argent parce que ça aide tous les aspects d'une organisation, puis c'est un incontournable, puis on pourra en parler dans d'autres occasions, mais que ça s'appelle données analytiques, statistiques avancées, peu importe comment qu'on l'appelle, ce sont des outils pour aider les équipes de sport à mieux performer.
Merci, Reed. D'ailleurs, c'est un peu, tu sais, le club va savoir avant tout que tu as le goût d'un hot dog. C'est une façon pratique de gérer ça. 8h31. Non, mais c'est vrai. Selon l'intelligence artificielle, t'es dû pour une bière. Bon, alors, la 640, oui.